Auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission quotidienne, le forum du studio Kalangu, une émission qui vous éclaire sur tous les sujets et qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct par 31 radios partenaires à travers le Niger et ce du lundi au vendredi entre 17h et 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Suite de notre forum portant sur le thème « Comprendre la sécurité sociale au Niger », après avoir vu les généralités sur la sécurité sociale au Niger, notamment la composante gérée par la Caisse nationale de sécurité sociale, ce soir nous allons aborder en détail l'une des trois branches dévolues à la sécurité sociale. Il s'agit de la branche des accidents de travail et les maladies professionnelles. Qu'est-ce que c'est qu'un accident de travail? Qu'est-ce qu'une maladie dite professionnelle? Dans quel cas parle-t-on d'accident de travail? Comment s'est fait la prise en charge des accidents de travail et des maladies professionnelles? Comment procéder pour bénéficier des prestations de la Caisse nationale de sécurité sociale en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle? Quels sont les conseils ou dispositions utiles pour rendre efficaces ces prises en charge d'accidentés de travail ou maladies professionnelles? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité dans ce studio Dr Ousseini Younoussa, chef service prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. Bonsoir docteur.
Bonsoir.
Et Amadou Haruna Maïga, qui fut secrétaire général de l'ISTN. Bonsoir Amadou Haruna.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Au micro, Alassane Kouzi, Mahamadou, pour ce forum. Si vous venez de nous prendre en cours, sachez que vous êtes au rendez-vous quotidien du forum du studio Kalangu. Ce soir, je le disais, nous poursuivons notre thématique sur la sécurité sociale. Nous avons vu dans la précédente émission que la sécurité sociale est un ensemble de mesures destinées à protéger le travailleur en assurant la couverture d'un certain nombre d'éventualités contenues dans les trois branches que couvre la Caisse nationale de sécurité sociale. Il s'agit notamment de la branche des prestations familiales, de la branche des accidents de travail et des maladies professionnelles et de la branche des pensions. Dans le forum, nous abordons les questions d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Il est à noter que le fonds destiné à couvrir les dépenses inhérentes à cette branche est constitué à partir des cotisations dues à l'employé. Ainsi, il est appliqué le taux de 1,75% de retenue sur un salaire minimum de 30 047 francs et un salaire maximum de 5 000 francs. Cette cotisation est à la charge exclusive de l'employeur. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet et en commençant par une définition des concepts clés. Je commence avec vous, docteur Ousseini. Vous êtes, je le disais, le chef service prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. Qu'est-ce qu'on entend par accident de travail?
Merci. Je saisis l'occasion pour remercier le studio Kalangu pour nous avoir donné l'opportunité d'échanger sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, surtout en ce qui concerne les aspects relatifs à la prévention des risques professionnels. L'accident du travail est un événement donc qui survient au milieu de travail, quelles que soient les causes et par le fait à l'occasion du travail donc à un travailleur salarié. Ça, c'est une définition légale. Toujours dans le cadre de la définition légale, est considéré également comme accident de travail, l'accident survenu entre le domicile du travailleur et le lieu de travail, et vice-versa, à condition que le trajet ne soit modifié par un motif indépendant du travail. Est considéré comme accident de travail, l'accident survenu au travailleur en déplacement.
En mission.
Il y a une définition aussi qu'on appelle jurisprudentielle. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y a une insuffisance au niveau de la première définition légale et on voulait un peu renforcer cette définition. C'est pourquoi on a pris une idée. Et cette définition dit que l'accident est aussi un événement soudain, imprévu, ayant entraîné une ou plusieurs lésions à l'organisme. Troisième définition, c'est la définition ergonomique. Là, le milieu du travail est considéré comme étant un système. Donc un système où on trouve l'homme et les machines et l'environnement. Donc tout accident qui survient et le dysfonctionnement intervenu dans ces systèmes-là. C'est ça la définition ergonomique. Donc, je ne sais pas, on peut...
Pour la maladie, oui, pour la maladie professionnelle. Parce que c'est deux aspects différents, je suppose.
Là aussi, on a deux définitions. La première, une définition légale, mais aussi une définition médicale. La définition légale, donc, tout accident est professionnel, donc, obéit à une classification dans un tableau de maladies professionnelles. Au niveau de ce tableau, il y a trois critères. Il y a le critère clinique, il y a le critère administratif et un critère technique. Donc ça, c'est la définition légale, mais il y a la définition aussi médicale de la maladie professionnelle. Une maladie professionnelle survient au cours de l'exercice habituel d'une fonction et qui a occasionné une exposition régulière à un facteur de risque. Le facteur de risque peut être physique, chimique, organisationnel ou biologique.
Bien, nous allons revenir à vous, le temps de donner la parole à Amadou Haruna Maiga, je le disais, qui fut secrétaire général de l'USTN. Monsieur Amadou Haruna, en tant que praticien, on va dire défenseur des employés, dans votre carrière, vous avez dû faire face, rencontrer beaucoup de cas, j'imagine, d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Comment tout de suite savoir qu'un tel est victime d'accidents de travail ou de maladies professionnelles?
Très bien, merci. À mon tour, je vous remercie très sincèrement. C'est la première fois que je suis invité à un tel débat. Je remercie Dr Younsa pour les définitions. En fait, c'est des définitions qui n'ont pas été inventées et c'est des définitions qui sont contenues dans nos textes. Il ne peut pas y avoir d'autres définitions que celles qu'il a données. Oui, dans ma carrière professionnelle, j'ai rencontré pas mal, surtout d'accidents de travail, parce que c'est visible. Les maladies professionnelles, on peut de visu savoir qu'un tel est malade, mais est-ce que c'est professionnel ou pas? Ça, c'est à la discrétion et à la compétence des médecins. Il a tout de suite parlé des tableaux, donc à ce niveau, ils vont regarder ça. Il faut dire que j'ai rencontré beaucoup de cas, d'autant plus que j'ai travaillé moi-même dans une société, la Sonichar, qui est à Agadez, société de charbon d'anneau à Raren. Donc là où vous savez qu'il y a beaucoup de machines, il y a beaucoup... Puisque la Sonichar est subdivisée en deux unités. Il y a la carrière donc où l'exploitation du charbon est faite et l'usine où il y a la transformation en énergie électrique. Donc les risques sont là au quotidien. Ce que le docteur a dit, c'est juste parce que par le passé, tout accident qui n'est pas lié à ta fonction professionnelle n'est pas considéré comme accident de travail. L'innovation qui est intervenue entre-temps, c'est que c'est un accident qui a lieu sur le lieu du travail. Quel que soit par ailleurs, comment c'est arrivé? Si tu es un conducteur d'engin et que tu marches à pied quelque part, tu as eu un accident, tu es tombé, c'est toujours
c'est
considéré puisque à 7h30, tu dois quitter ton domicile pour aller au travail. Et il a parlé de l'itinéraire tout
l'itinéraire
à l'heure,
allant,
à moins que l'itinéraire ne soit modifié pour d'autres raisons quelconques. Même si tu as des enfants ou ta femme que tu dois déposer au travail ou bien les enfants à l'école, il faut déclarer cet itinéraire-là à ton employeur comme faisant partie de ton itinéraire. Si quelque chose arrive, tu es pris en charge, c'est considéré comme étant un accident de travail. Nous avons vu beaucoup de cas qui... nous avons un camarade d'ailleurs qui est là. La caisse a même fouillé pour savoir est-ce que là où il a eu l'accident-là, c'est un rapport avec son activité professionnelle. Je vais taire le nom, mais... tous les jeunes de Sonichar qui écoutent cette émission et même certains anciens de la caisse qui ont à un moment géré le dossier, ils sauront de qui je parle. Ouais. C'est un chaudronnier qui est monté au niveau de la salle des machines et dans un faux plafond et pour d'autres choses que je tais aussi. Et le jour-là, le monsieur, il est tombé, il a eu 9 fractures, mais les gens sont même allés dire, mais est-ce que, à la caisse que là-bas, c'est, voilà ce qu'il est allé faire, c'est pas le
c'est travail. Pas son
travail. Ouais, ouais, c'est ça. Mmh. Bon, ils ont pu trouver, je crois, des formules pour faire ça. Puisque, entre-temps, cette formule est considérée comme accident de travail. Tout accident survenu au lieu de travail n'était pas, je crois, bien intervenu.
En ce moment.
En ce moment, donc, mmh. sinon, le problème n'allait pas se poser. Mmh. En tout cas, pour les accidents, j'en ai vu beaucoup. Mortels même. Bon, pour les maladies, j'avoue qu'il y a des techniciens en la matière. Et donc, c'est eux, le docteur peut valablement s'étendre à ce sujet. Mais l'autre, j'en ai vu, puisque c'est des cas palpables, visibles, qu'on n'a pas besoin de dire X ou cela.
Docteur Ousseini, nous revenons à vous. Comment se fait alors la prise en charge des accidents? Quand un accident de travail survient pour un travailleur salarié ou quand celui-ci est atteint d'une maladie professionnelle, comment se fait la prise en charge?
On va prendre l'exemple de l'accident de travail. Après la survenue donc de l'accident de travail, la première des choses, c'est qu'il faut engager des secours. Parce que la précocité des secours permet effectivement de diminuer la gravité des séquelles. Après les secours, donc, il faut engager aussi le traitement, la prise en charge, donc la restauration physique de l'intégrité déjà perdue du fait de l'accident. C'est en ce moment, il faut faire la déclaration à la caisse, d'abord.
Qui incombe à qui?
La déclaration incombe d'abord à l'employeur. Ensuite, aux ayants droit, si déjà l'employeur, et à la victime même, bien sûr.
Cette déclaration se fait de manière écrite?
Il y a un formulaire prévu pour ça. Il y a un formulaire. Ce formulaire-là est mis à la disposition des différentes entités pour qu'en cas d'accident, on puisse rapidement faire les déclarations.
Oui, est-ce qu'il y a un délai qui a été fixé pour cette déclaration
c'est 48 heures. Hein. L'employeur devrait faire la déclaration.
Au-delà de ces 48 heures
il y a toujours les règles qui prévoient que des choses, quoi, des mesures quand même alternatives. Mm-hmm. Mais c'est ce que la loi dit, il faut déclarer ça. Bon, il y a 24 heures pour la victime. Si la victime est très loin de l'employeur, il peut faire la déclaration en 24 heures. À l'employeur. Bien. Toujours, si vous voulez, on va continuer sur ce qui concerne les prestations.
Oui.
En fait, je veux dire les formalités initiales avant d'arriver aux prestations. Il y a l'employeur qui devrait faire la déclaration. Il y a le médecin de travail, donc qui doit fournir le certificat médical initial qui décrit les lésions, les différentes lésions donc que l'accident a occasionné. Il y a aussi le médecin conseil de la caisse qui intervient aussi. Donc il faut dire que après l'intervention de l'employeur, après l'intervention du médecin traitant, donc il y a un taux normalement après le traitement, il y a un certificat médical final descriptif qui est livré, qui est versé dans le dossier, et ce certificat médical fait la description des lésions après le traitement, fixe un taux, s'il y a lieu, d'IPP, c'est-à-dire qu'il y a une capacité permanente partielle, ou carrément un taux d'IPT, c'est-à-dire qu'il y a une capacité permanente totale. Là, ça veut dire que le travailleur ne peut plus exercer l'activité initiale. Il va falloir penser donc à un reclassement. Mais toujours est-il que sur la base donc, 10 certificats médical descriptif, final descriptif, c'est sur cette base que le médecin conseil de la caisse examine, après examen donc de la victime, fixe un taux d'IPP. Et c'est ce taux d'IPP qui va servir de base pour le calcul des indemnités, c'est-à-dire que des montants des indemnités à verser à la victime. Voilà.
Bien. Nous revenons à vous, M. Amadou Harouna. Dans la pratique, quelles sont les difficultés qui souvent surviennent autour des circonstances d'un accident de travail?
Bien, je veux juste compléter Dr Younsa, parce que quand il a commencé à dire lorsqu'un accident survient, il faut d'abord secourir la victime. Vous l'avez un peu arrêté puisque vous avez dit la déclaration, tout ça. Oui, bien sûr, lorsqu'il y a un accident, la première des choses, c'est d'apporter secours et assistance à cette victime. Donc, il y a le secours, il y a les premiers soins également qu'il faut apporter. C'est après qu'il faut faire la déclaration. Dans beaucoup d'entreprises structurées, il y a un service sécurité qui est là. Et en premier chef, c'est le service sécurité là qui doit dresser, donc mener une enquête, faire le rapport, tout ça, pour voir, situer d'abord les responsabilités, dans quelles conditions cet accident-là est intervenu. La partie médecin, il a expliqué, puisque lui, il reçoit un accidenté qui a des lésions, qui a tout, lui, il doit déterminer le taux, etc., etc. Donc c'est tout ça qu'il faut compiler, il faut remettre. C'est vrai, souvent, il y a la négligence sur le terrain. Ce qui fait que, et c'est pour ça que le législateur, chaque fois, il met un délai. Qu'à partir, il faut faire telle chose dans les 48 heures, par exemple. Mais souvent, il y a des problèmes qui se posent. Alors, et il faut dire qu'il y a des difficultés, souvent, que nous rencontrons, parce que dans certaines sociétés, comme j'ai dit, il y a la négligence. Parce que les gens, ils ne sont pas réprimés en cas de manquement. Et nous, en tout cas, moi, de 1981, j'ai commencé à être délégué du personnel jusqu'à 2016, quand j'ai quitté le mouvement syndical. Donc, de 1981 à 2016, c'était sans relâche, j'étais dans le mouvement syndical. Et qui parle des mines, parle d'accidents. Surtout à un moment au début, on ne maîtrisait pas bien le matériel. Et la plupart, pour ceux qui sont du côté carrière, c'est les jeunes qui sont les conducteurs des gros engins là. Ils aiment faire la vitesse. Et lorsque on balise le terrain pour limiter la vitesse, ne pas faire ça, lorsque vous ne respectez pas, eh bien, la finalité, c'est l'accident. Et de l'autre côté, il y a des équipements qui sont prévus. Non pas que ces équipements-là vont faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident, mais ça va minimiser un peu les dégâts. Il y a certains corps de métier, comme les chaudronniers, les électriciens, et même si tu l'es pas, même ceux qui sont dans l'administration, le port de casque, il est obligatoire, parce qu'on ne sait jamais. Tu peux rendre visite sur un chantier en tant que directeur général de l'entreprise, là-bas il peut avoir des chutes, etc., etc. La principale difficulté, c'est la négligence. Et souvent, les gens veulent cacher les choses. Et ça, ce n'est pas normal. Pour rendre service à quelqu'un, lorsqu'un accident survient, il faut dire les choses telles que c'est venu. Dans la définition, tout à l'heure, le docteur a dit que c'est un événement soudain, imprévisible. Donc, tu ne le fais pas exprès. Si tu sais qu'en allant à tel endroit, je vais avoir l'accident, tu n'iras pas. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, certaines difficultés sont en train d'être contournées. Parce que je crois maintenant, dans les sociétés que moi je connais, le comité sécurité santé au travail est effectif partout. Et il fait bien le travail. Au passage, je dois dire, même comme j'ai un cabinet de formation, pendant le mois de juillet, j'étais à Agdez pour former les membres de Sonichar, de sécurité santé au travail. Non seulement avec l'expérience que j'ai en tant que syndicaliste, travailleur aussi, mais avec les inspecteurs et le personnel de la caisse, on a pu en tout cas passer en revue tous les textes qui prévoient ça et les comportements et haute attitude que chacun doit avoir pour mener à bien le travail. Parce que lorsque tu es dans tel comité, ce n'est pas pour toi, c'est pour tous les usagers, l'ensemble du personnel. Donc, des difficultés, certes, ça ne manquera pas. Et c'est ce qui permet d'aller à l'avant. À chaque fois qu'on constate qu'il y a des erreurs, des insuffisances, on corrige. La perfection, ça n'existe pas. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ce qu'on a constaté aujourd'hui, on va porter des corrections nécessaires pour que demain, de telles situations ne se reproduisent pas.
Est-ce qu'aujourd'hui, au Niger, les accidents sont vraiment fréquents? Je m'adresse à vous, docteur Ousseini.
En fait, les accidents sont fréquents. Bon, pour vous donner une idée, donc sur la fréquence de ces accidents-là, nous avons pris les données de 3 ans. Donc en 2014, nous avons enregistré 199 accidents. En 2015, Nous avons enregistré 158 accidents. Et en 2016, en tout cas les dernières statistiques qu'on a, on a enregistré 170 accidents. Donc en moyenne, en 3 ans, nous avons 175 accidents. Il faut dire que qui sont déclarés. Ça veut dire que ça, c'est comme il l'a dit, hein, ce sont les accidents déclarés.
Parce qu'il y en a qui ne sont jamais déclarés.
Naturellement, il y a certains qui ne sont pas, parce que certains ne sont même pas informés. Ils n'ont pas l'information qui a, sur la déclaration.
Ils ont le droit, les
devoirs. Ils ont la possibilité de déclarer les accidents. Au fait, comme on a l'habitude de le dire, hein, c'est vraiment la face immergée de l'iceberg. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est seulement ce qu'on voit. Mm-hmm. Ce qui est en bas, là, en dessous,
c'est énorme.
Vraiment.
Et on voit
donc,
que...
surtout si on tient compte du fait qu'il existe le secteur informel et tout, il y a d'autres secteurs même formels où ils ne déclarent pas du tout les accidents. Mmh. Voilà.
On donc, a vu qu'entre 2014 et 2016, il y a un certain nombre de variations de 199.
Ça voilà, donc
à 158,
au fait, cette
et
voilà,
puis ça a remonté à
170 en réalité,
170
depuis,
en 2016.
Depuis quelques années, hein, nos statistiques varient entre 200, 300 et en dents de scie. Vraiment. Donc
ça veut dire que
bon, au fait, j'allais vous ramener un peu dans les années 80 où on a beaucoup plus d'accidents. On a eu des mille, on a compté 1000 accidents, mais après déjà dans les années 90, donc on est revenu à peu près dans les 200, 300. Vous voyez, ça veut dire qu'il y a eu des progrès quand même.
Et qu'en est-il?
Une prise en compte. En tout cas, une prise
de conscience.
Oui, je veux dire. C'est-à-dire qu'en tout cas, pour ce qui concerne la fréquence, il y a eu une diminution des accidents enregistrés.
Et qu'en est-il des maladies professionnelles? Est-ce que ça signifie qu'il y a moins de maladies?
Bon, les maladies professionnelles, on en a déclaré très peu. Hein? Parce que toujours est-il que, au niveau de... Il y a des problèmes de connaissance de ces maladies-là. Non seulement... Il y a des problèmes de connaissance au niveau du personnel soignant, le personnel donc médical, qui ne fait pas le plus souvent la liaison entre l'activité professionnelle et puis la pathologie présentée. Et aussi, il y a des problèmes au niveau de l'employeur, qui ne déclare pas toutes les substances, ou du moins tous les facteurs qui sont susceptibles, en tout cas, d'occasionner des maladies professionnelles. Normalement, l'employeur est tenu de les déclarer à l'inspecteur du travail. Et donc, c'est sur cette base qu'on doit donc élaborer des programmes de prévention. Il y a aussi les travailleurs même qui ne connaissent pas le caractère dangereux de tous les produits ou qu'ils sont en train de manipuler. Donc vous voyez, il y a beaucoup de facteurs qui interviennent, qui font que aujourd'hui les maladies aussi, il y a un problème au niveau de administratif, parce que non, la liste des maladies professionnelles n'a pas connu une évolution depuis après les indépendances.
Oui, justement, j'allais en venir par rapport à normalement
il y a 21 tableaux de maladies professionnelles.
Maintenant, il y a
un progrès parce que on est rentré dans une dynamique aujourd'hui de révision de la liste de maladies professionnelles.
Est-ce que au-delà de la révision de cette liste, est-ce que cette liste est déjà connue?
Cette liste est connue.
Il y a toujours de la difficulté des agences.
Non. Cette liste est en voie d'être vulgarisée. Au fait, il y a des petites retouches, quand même, une petite révision qu'il va falloir faire. Et après, la liste serait effectivement vulgarisée.
Monsieur Amadou Harouna, par rapport aux maladies professionnelles, on parlait de cette liste des maladies. Quel commentaire vous avez à faire par rapport à cette liste des maladies, notamment par sa connaissance par le public, les employés, les employeurs et les agents traitants?
Bien. Comme il l'a dit, hein, depuis les indépendances, je crois qu'il a parlé de 21 tableaux. Et il faut dire, en tant que représentant des travailleurs, nous avons beaucoup et énormément exercé des pressions pour qu'il y ait un tableau de maladies professionnelles actualisé. Je parle sous son contrôle. Et aujourd'hui, je ne maîtrise pas personnellement le nombre, mais je sais que c'est énorme. Et c'est énorme. Et c'est sous la pression des syndicats. Puisque, comme on dit, peut-être qu'on va en arriver, il y a des maladies émergentes qui ne sont pas considérées par le passé comme des maladies professionnelles, d'autant plus qu'on ne les connaissait pas. Puisque ces maladies-là sont apparues, aujourd'hui, il faut bien les insérer dans notre système. Donc, la caisse doit dresser ça. Et lorsque c'est dressé, c'est validé. Parce qu'il dit qu'il y a quelques retouches à faire. Je suis tout à fait d'accord. Il ne faut pas servir aux usagers un produit incomplet qui n'est pas fini. Lorsque tout sera prêt, il va certainement avoir une campagne de vulgarisation. Puisqu'il faut que les gens, les travailleurs qui sont dans certains milieux, qu'ils sachent que là où ils travaillent, là, ils peuvent contracter ou bien qu'est-ce qu'il faut dire, attraper telle maladie liée à la manipulation de ces produits ou bien ceci ou cela. Il va prendre conscience lorsqu'il se rendra compte qu'il y a un danger qui le guette. Donc la vulgarisation, elle est nécessaire. Et je pense que la Caisse mettra les moyens nécessaires avec les employeurs. Parce que la Caisse, elle, c'est la prise en charge. Mais la prévention, d'abord, c'est en interne, dans l'entreprise. Donc, les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour que les gens respectent les consignes. Il l'a dit, beaucoup de gens manipulent des produits dont ils ne connaissent pas, en tout cas, les dangers. Et ça, ça incombe à l'employeur. Il faut dire, il faut former les gens pour qu'ils respectent toutes les consignes de sécurité pour leur propre santé. Ce n'est pas pour l'employeur, pour ta propre santé. Parce que lorsque, tout à l'heure, il a parlé de taux d'incapacité temporaire, permanente, lorsque ça t'atteint, ce n'est pas l'employeur. Lui, peut-être, chaque mois, il va te jeter quelques sous, mais c'est toi qui es foutu pour jamais. Donc, et les syndicats auront, je crois, un rôle à jouer. Nous, aujourd'hui, quand bien même ne sont pas dans le système, je suis actif parce que je suis conseiller syndical de mon syndicat de base, le syndicat des travailleurs des mines du Niger. Et je suis leur conseiller parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est des jeunes qui ne maîtrisent pas les choses. Donc, à plusieurs occasions, même hier nuit, j'ai reçu des choses où je les ai appelés pour dire
pour
voilà,
donner
voilà.
Un peu des conseils. Oui,
c'est
des
pour
orientaux.
Ça que je n'ai pas refusé quand vous m'avez invité. Je sais que la société a encore besoin
en
de
cause
moi.
De voilà. Besoin de vous. Voilà. Et donc, je reviens à vous, monsieur, docteur Hussein Younsa. On avait parlé tout à l'heure de la fréquence des accidents du travail, maladies professionnelles ces dernières années. Qui vous avait dit, par rapport aux années 80, a une tendance à baisser. Quel est le coût, je vais dire,
C'est le coût. Au fait, le coût tourne autour de 300 millions.
Annuellement ?
Annuellement, oui. Donc, je vais vous dire que ce coût-là n'est pas proportionnel à la fréquence des accidents. Parce que le coût est lié plutôt à la prise en charge des actes. Aujourd'hui, vous savez, les actes coûtent un peu plus cher. Que dans les années passées. Donc, c'est pas proportionnel à la fréquence. Quand les actes le prix des actes augmente, ici, les accidents sont en train de chuter. Donc, c'est pas vraiment lié. Est-ce que vous avez compris?
Oui.
Parce que l'autre, c'est un autre milieu. Le milieu médical, c'est le milieu, je ne sais pas. Il y a beaucoup de gens qui interviennent au niveau de ces milieux-là, que la caisse ne maîtrise pas du tout. Voilà, les actes.
Amadou Haruna Maïga, quelles sont aujourd'hui les principales difficultés auxquelles les victimes de travail, d'accidents de travail ou de maladies professionnelles sont confrontées? La reconnaissance de leurs droits.
En principe, il n'y a pas de problème. D'autant plus qu'aujourd'hui, j'ai dit, les gens, tout le monde a pris conscience. La prise de conscience agit non seulement sur la fréquence des accidents, comme il l'a dit, donc il y en a de moins en moins. Et l'autre chose, c'est que chacun doit faire son travail aujourd'hui. Nous sommes contre l'absolution. Quand quelqu'un commet une faute, qu'on le laisse passer, on dit c'est Dieu qui a mené. Parce que la sanction, elle est pédagogique. on ne sanctionne pas pour faire mal souvent, mais ça permet à la personne de se corriger. Donc vraiment, les victimes d'accidents de travail et maladies de professionnels, je peux dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de problème. La seule petite difficulté qu'ils peuvent rencontrer, c'est toujours lié à la lenteur. Souvent, les gens, ils se plaignent beaucoup du système au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Pour qu'ils puissent être dans leurs droits. C'est tout. Mais sinon, lorsque un accident survient, on prend les premiers soins, on fait la déclaration, tout ce qui s'ensuit, on envoie. La prise en charge maintenant, ce n'est plus l'employeur, c'est au niveau de la caisse. C'est au niveau de la caisse. Il peut avoir, c'est des humains aussi, comme partout ailleurs. Il peut avoir, passez-moi l'expression, des agents zélés, ceux qui s'occupent par exemple du dossier. Il peut avoir un qui est un peu zélé, il met de la lenteur, tout ça. Mais véritablement, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Les choses sont tellement claires. Et je vous dis, les membres du comité sécurité santé au travail, on les apprend même eux-mêmes comment il faut faire une enquête. Quand il y a un accident, etc., etc. Donc tout ça, là, ça fait que la fréquence diminue. Il y a la prise de conscience des uns et des autres, de tout le monde. Les employeurs, ils mettent, en tout cas là où moi j'ai travaillé, ils mettent l'argent pour la sécurité, pour que tout le monde comprenne. Donc véritablement, c'est quelques petits problèmes qui sont inhérents à tout système et qu'on trouvera partout. Comme je l'ai dit, je me répète, la perfection, ça n'existe pas. Oui, mais vraiment, il n'y a pas de problème.
Nous abordons à présent la dernière partie de cette émission concernant les mesures préventives en vigueur et celles à mettre en œuvre en partie pour pouvoir jouer davantage sur l'incidence, la survenue d'accidents de travail et de maladies professionnelles. Alors, je reviens à vous, docteur Younoussa. Quelle est la place de la prévention dans les activités de la Caisse nationale de sécurité sociale? Je rappelle que vous êtes le chef service prévention.
Bon, puisque vous posez une question par rapport à la prévention, la Caisse a une politique de prévention. La Caisse a défini une politique de prévention axée sur trois actions. La première, c'est d'abord établir les statistiques au niveau national sur l'ensemble du territoire pour connaître les tendances en matière de survenue des accidents de travail. La deuxième action, donc, c'est de faire des contrôles, des visites des lieux de travail pour faire le répertoire de tous les facteurs qui peuvent occasionner des accidents de travail et des maladies professionnelles et conséquemment prévoir les mesures de prévention. Ça, c'est la deuxième action. La troisième action, c'est mettre l'accent sur l'information, la formation, la communication pour un changement de comportement. Donc, non seulement des travailleurs, mais aussi de la population en général. Voilà donc les trois axes sur lesquels donc la politique de la Caisse est fondée. Voilà. Maintenant, si vous voulez, au niveau national, parce que la prévention, ce n'est pas seulement la Caisse.
Effectivement.
La Caisse n'est qu'un acteur de la prévention, parmi tant d'autres. Donc, il y a tout un système de la prévention, à commencer par le ministère.
En charge du travail.
En charge du travail, bien sûr. Plus précisément, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, au sein duquel se trouve une direction même de la santé et la sécurité au travail. Bien. Donc, en plus de ce ministère-là, il y a d'autres ministères aussi qui s'occupent effectivement, qui sont impliqués dans la question de la gestion de la santé et la sécurité, notamment le ministère de la Santé et les autres ministères techniques. Donc ça, c'est pour vous dire qu'il y a un cadre institutionnel. Mais le cadre légal, donc au niveau de ce cadre, on retrouve non seulement les textes au niveau international, que nous avons ratifié, notamment il y a les trois conventions de base, la convention 155 qui est relative à la politique de santé et sécurité au travail, la convention 161 donc sur les services de santé au travail, et la convention 187 sur la promotion de la santé et la sécurité au travail. Toutes ces conventions ont été ratifiées. Et mieux, après la ratification de ces conventions-là, l'État nigérien, aujourd'hui, a adopté la politique nationale de la prévention des risques professionnels. Donc, ce qui fait que, au fait, tous les partenaires peuvent apporter leur contribution. Alors, dans le cadre de la prévention des risques.
Qu'en est-il, étant donné que vous parlez de plusieurs acteurs qui, normalement, sont censés intervenir dans ce domaine de la prévention, voilà. Qu'en est-il des obligations liées qui incombent à l'employeur en matière
donc,
de prévention
des risques d'accident du travail ? Donc, les employeurs et puis les travailleurs sont en ligne.
Mais là, de façon spécifique, qu'est-ce que vous attendez des employeurs en matière de prévention des accidents de travail?
C'est d'abord connaître les textes en matière de santé et sécurité au travail. Les vulgariser au niveau de leur entité. Il faut aussi former les travailleurs en matière de santé et sécurité au travail. Mettre en place et faire fonctionner les comités de santé et sécurité au travail, qui est un cadre privilégié de l'application, en tout cas, de la santé et la sécurité au travail au niveau des entreprises. Voilà. On attend beaucoup l'implication au niveau des différentes instances aussi, où les questions de santé et sécurité sont traitées. Notamment, je vais dire, les réunions qui rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle l'interafricaine de la prévention des risques professionnels. Nous avons une association d'intégration donc des actions de la prévention au niveau même sous-régional. Oui. Nous sentons effectivement l'absence des employeurs. Là, ils devraient adhérer beaucoup plus donc aux activités d'intégration des actions de la prévention des risques professionnels au niveau régional. Oui. On attend des travailleurs, leur implication aussi. Ils sont vraiment, il faut dire, comme ils viennent de le dire, ces derniers temps, vraiment, ils ont pris à bras le corps la question de la santé et la sécurité. D'ailleurs, c'est qu'il nous a fallu toutes ces avancées-là dans le domaine. Ça, il faut les reconnaître. Mmh. Ils ont créé une intersyndicale même en santé et sécurité au travail. Il y a une formation qu'ils ont reçue. Eux-mêmes, ils organisent aussi des formations des différents membres. Bien. Voilà, donc voilà ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses quand même autour, mais voilà.
De façon brève.
Oui, c'est ça.
Bien, nous revenons à vous, Amadou, oui. Haruna Maiga. Le comité de sécurité santé dont il a parlé tout à l'heure, entre autres contributions qu'ils attendent des employeurs, il avait dit, est-ce obligatoire, nécessaire, et est-ce que cela est respecté dans beaucoup de services?
Très bien, merci. En tout cas, après qu'il ait parlé, je ne peux qu'ajouter un peu, sinon en tant que chef service prévention, sur la question précise de la prévention, je crois qu'il a tout dit. Alors, le comité de sécurité santé au travail a été institué par une loi. Et cette loi fait obligation à toutes les entreprises qui ont 50 salariés de mettre ce comité-là en place. C'est une obligation. Et là où on constate que ce n'est pas fait, les représentants, qu'il s'agisse des délégués du personnel ou des délégués syndicaux, ils doivent signaler que telle entreprise a plus de 50 salariés, il n'a pas mis en place le comité de santé et sécurité. Le comité, c'est pour les aider. C'est pour aider. Donc l'État a fait de ça une obligation.
Et c'est seulement quand il y a 50 employés et
50 salariés.
En dessous. Pas
non,
besoin.
C'est-à-dire, par le passé, il y a ce qu'on appelle les comités d'hygiène et de hygiène et santé au travail, quelque chose comme ça. Mais là, Même si vous n'avez pas 50 salariés, de par les risques que vous encourez, l'employeur peut mettre un comité, parce qu'il y a un chef service sécurité, il y a un médecin qui est là, même si c'est un majeur, en tout cas qui est là, il doit faire partie de ce comité. Mais la loi, elle, elle fait obligation à partir de 50 salariés. Oui, oui, il faut faire ça. Et tout à l'heure, docteur, dans toute la panoplie de mesures de prévention dont il a parlé, il y a un aspect extrêmement important.
Lequel ?
Le changement de comportement. Vous avez beau avoir tous les textes, les meilleurs textes du monde, lorsque le comportement ne suit pas, c'est zéro. Donc il faut que on change de comportement. On dit même souvent de mentalité. Pour le cas des Nigériens, oui. Avec ce que nous observons aujourd'hui. Les gens ne travaillent pas, en tout cas au niveau de l'administration. Tout ça, il faut que les gens changent. Donc la prévention, c'est ce qui permet de faire des économies. Parce que mieux vous faites une bonne intervention, mieux il y a moins d'accidents. C'est pour prévenir qu'il n'y ait pas d'accidents. Il y aura toujours des accidents, mais peut-être qu'ils viendront avec moins de gravité. La prévention, elle est extrêmement importante et je pense qu'il faut jouer là-dessus. Et le docteur a parlé des acteurs. Les employeurs et les salariés, ils sont des acteurs aussi, mais dans leur entité, s'il faut reprendre son terme, dans leur entité. La caisse ne descend pas à Sonichard pour dire « faites ça ». Le ministère ne descend pas à Sonichard pour dire ça. Pour ce qui est le ministère, il y a l'inspection du travail régional qui est là, qui suit l'évolution de tous ces trucs-là et qui établit un rapport annuel pour dire que ceci ou cela. De par les statistiques de la prévention, et la caisse peut savoir à Sonichard cette année qu'est-ce qui a pu se passer dans le cadre de la mise en œuvre de tout ce programme de prévention. Donc, je dis que c'est une très bonne chose. Les travailleurs n'attendent qu'on dise qu'il y a une campagne de sensibilisation, d'information, de vulgarisation, mais ils vont mettre la main dedans parce que c'est leur intérêt, c'est leur vie qui est en danger.
Il avait aussi évoqué la formation.
Mais bien sûr,
des agents, des travailleurs salariés.
Il incombe à l'employeur de s'adapter au contexte. Mieux, dans le cas du comité sécurité santé au travail, dans les textes, ça a été clairement dit qu'il faut former les membres. Mais vous ne les formez pas, ils ne font pas la magie. Ils ne font pas la magie, c'est à travers la formation qu'ils sauront les rôles et les missions qui les attendent. Et en ce moment, ils vont les appliquer sur le terrain. Donc, c'est fondamental, il faut qu'ils comprennent. Ce n'est pas pour eux, c'est pour le bien de l'entreprise. Un directeur général d'une entreprise, il est passager. Il est venu par décret, il va partir. Et il laisse les autres personnels. Donc, il faut que quand il quitte, même que les gens continuent à parler en bien de lui. Qu'il a fait ça pour la sécurité, qu'il a fait ça pour la santé. Il a fait ça. Lorsqu'il y a une bonne prévention, il y aura moins de coûts pour les accidents.
Votre dernier mot ?
Mon dernier mot, c'est que je vous remercie très sincèrement. Ça me va droit au cœur de prendre parti. Et que je pense qu'il faut de temps en temps de telles émissions pour que les travailleurs, les employeurs, tout le monde comprenne qu'il y a des dispositions qui sont là. Il suffit de les appliquer pour être un peu à l'abri de certaines situations.
Bien. Docteur Younoussa, votre dernier mot ?
Oui, bon, merci.
Nous sommes pratiquement à la fin.
Je vais aussi abonder dans le même sens, c'est qu'il faut que les travailleurs soient formés. Il faut que les travailleurs soient formés pour vraiment s'impliquer pleinement dans les questions de santé et sécurité au travail. Les travailleurs, mais aussi il faut que les employeurs soient aussi et informer sur les questions, les facteurs de risque auxquels les travailleurs sont exposés. Bon, j'allais au fait évoquer aussi la question d'intégration au niveau sous-régional. Non seulement les employeurs, les travailleurs, à travers leur association, devaient pouvoir donc adhérer à ce système-là d'intégration au niveau sous-régional.
Sur ces mots, prend fin le forum de ce soir sur la thématique « La sécurité, comprendre la sécurité sociale au Niger ». Nous étions en compagnie de Dr Ousseyni Younoussa, chef service prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale, et Amadou Haruna Mega, ancien secrétaire général de l'ISTN. Merci à vous d'avoir été des nôtres durant ces 45 minutes. Bonsoir.
Thank you.